pour investir, le placement à suivre.
Julien Nebenza, 10 euros, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, c'est très intéressant de vous avoir dans ce contexte actuel. Premièrement, parce qu'on se retrouve dans un marché qui est plein de surprises et en plus qui est plein de surprises de côté où on ne les attendait pas forcément. Donc c'est le double œuf Kinder. Mais il y a autre chose dont il faut qu'on parle et qui est liée, bien entendu. Et on en parlait tout à l'heure avec Gustav Sanden, là, dans le déchiffrage. C'est très intéressant ce qu'il nous disait. Il nous disait, alors ça concerne les marchés américains, qu'en gros, si on fait la moyenne des options d'achat et des options de vente, on arrive en ce moment pour l'activité retail, pour l'activité qui concerne les particuliers qui viennent placer leur argent en bourse, à un niveau qui est au plus bas jamais vu depuis 20 ans. Ça faisait des mois qu'on disait Wall Street est en train de fonctionner sur un principe qui est assez simple, c'est-à-dire qu'en cas de turbulence de marché, les investisseurs institutionnels vendent le marché et le lendemain ou le surlendemain, c'est rattrapé par l'activité retail parce que les particuliers y voyaient un intérêt. Et là, visiblement, le moteur est en train de se dégonfler. Ça ouvre plusieurs sortes de perspectives pour essayer d'évaluer un petit peu l'état d'esprit des marchés. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, justement, cette stat?
Alors, les ratios d'options, donc le rapport entre les calls et les puts, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est quelque chose qu'on observe depuis maintenant 40 ans. Mmh. En général, ce sont soit les stratégistes de marché ou les analystes techniques qui utilisent ça, pas les analystes financiers. Mmh. Et c'est pour essayer d'évaluer le sentiment de marché, tout simplement. Ce que moi, je constate depuis une dizaine d'années, plus même peut-être 15 ans, c'est que la conclusion qu'on peut dégager de l'état de ces ratios et de leur dynamique, elle est beaucoup moins pertinente qu'elle l'était il y a 20 ans. Donc, c'est toujours intéressant, mais je pense que ça l'est moins. Faire une deuxième observation, quand en fait vous posez la question, vous dites, le ratio est là, et les particuliers, pourtant, c'est ceux qui venaient acheter. En fait, ça fait référence, dans mon esprit, à un sujet que j'avais développé l'an dernier, c'était la relation des marchés financiers aux mythes. En fait, les mythes, on a toujours besoin de... Les sociétés se construisent avec des mythes.
Ah, toujours, bien sûr. Ouais.
Et les mythes ont toujours une origine réelle, se transforment, évoluent dans le temps, se simplifient, etc. Et on a évolué toujours en finance avec des mythes, notamment dans la finance populaire, celle de tous les épargnants. Mmh. Dans les mythes, il y a des gens qui savent et ceux qui ne savent pas. Dans les mythes, les professionnels sont toujours en avance. Ou dans les mythes, il y a eu longtemps, le particulier est en retard. Il y a eu très longtemps ça. Mmh. En fait, on essaie de se raccrocher à l'un de ces mythes pour essayer de se dire quel signal on est en train d'avoir sur l'évolution des marchés financiers. Alors, il y a eu un changement, je pense, important au cours, cette fois-ci, des 10 dernières années à peu près. C'est le niveau d'éducation financière dans le monde et dans les pays, évidemment, occidentaux. Les investisseurs privés ont de plus en plus pris connaissance des mécanismes boursiers et ils ont intégré les rythmes successifs de hausse et de baisse. C'est comme ça qu'on a vu, notamment en 2025, au moment du Capitulation Day, enfin Liberation Day, jour de capitulation, on a vu des particuliers justement investir significativement. Ça, c'est une chose qui maintenant doit être intégrée. C'est-à-dire que le comportement des particuliers n'est plus celui qu'on a observé il y a 20 ans.
Bien sûr. Ouais.
Maintenant, c'est très bien de se dire que un investisseur privé est capable de voir quand ça baisse que c'est peut-être attractif pour acheter. Donc, par exemple, il pourrait être là. C'est très bien. Sauf que ce genre de raisonnement tient tant que l'émotion ne l'emporte pas. L'émotion, c'est l'avidité ou la peur. Ici, on est plutôt dans le cas de la peur que de l'avidité en ce moment.
Totalement, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, on peut garder ce raisonnement, mais il faut savoir qu'il faut le mettre. Il faut savoir que dès qu'on est à la périphérie de ça et qu'on est dans l'émotion, le raisonnement disparaît totalement. Alors, si on prend le cas de la baisse récente et les chiffres qu'on donne, les investisseurs particuliers, ils ont quand même assez probablement, globalement, suivi les tendances principales des toutes dernières années, c'est-à-dire technologie, software, IA. Mmh. Et quand vous voyez un Dow Jones qui a perdu, mettons, 5-7% depuis ses sommets, on peut se dire, bah, finalement, c'est peu, pourquoi est-ce qu'on serait si couvert, pourquoi on serait si inquiet? En fait, non, quand vous détenez un portefeuille composé de valeurs techno, de valeurs de software, de valeurs d'IA liées à toutes ces thématiques, vous êtes plutôt en baisse de 30 ou 40% hein, par rapport au sommet. Donc, vous constatez quelque chose d'assez fort. Et c'est relativement normal, c'est ça qu'on est dans l'émotion. Ouais, c'est relativement normal d'aller chercher un peu de couverture. Donc de dégager maintenant, à partir de cette donnée, de dégager une sorte d'anticipation.
Ouais.
Pour les raisons que j'ai dites, je ne le ferai pas, je ne peux pas le faire. Mais je ne considère pas que cette donnée empêche en soi le développement d'un marché baissier tel qu'il se construit. Et notamment, je pense qu'il y a une grande différence dans la compréhension de tous les épargnants, professionnel comme investisseur privé. Une grande différence entre une guerre commerciale, je parle à nouveau du Liberation Day, d'une guerre commerciale qui était en gestation depuis plusieurs années, que Trump réactive et réactive, avec une situation actuelle que je centre sur le détroit d'Ormuz,
oui. Parce
qu'il n'y a que ça pour moi qui sont importants, mais que je centre sur le détroit d'Ormuz, dans ses conséquences les pires, c'est exactement la même chose que la pandémie. C'est exactement la même chose.
Oui, c'est
les
conséquences les pires,
c'est une fermeture d'activité, une mise à l'arrêt des économies.
C'est ça.
Donc, je crois que ça, tout le monde le perçoit. Donc, qu'on manifeste une certaine prudence sur les marchés financiers me semble être simplement, cette fois-ci, non pas de la panique, ou non pas un excès, mais juste du bon sens. Donc, je ne dégagerai pas beaucoup d'éléments d'anticipation des marchés financiers par rapport à cette donnée, en tout cas à ce stade.
D'autant plus que c'est un chiffre qu'on peut prendre dans les deux sens. C'est-à-dire, le particulier américain n'a plus envie d'investir en bourse. Bon, OK. Ça peut vouloir dire aussi que justement le cycle est venu pour les investisseurs institutionnels de reprendre le cap et d'être à nouveau ce soutien des marchés qui n'ont pas été ces derniers mois où on voyait que c'était plutôt le particulier. Une sorte de balancier qui repart dans l'autre sens.
Alors si on avait une intelligence artificielle pour répondre à la question, elle dirait probablement, analysons toute la succession d'informations qu'on va avoir dans les heures, jours, semaines qui viennent pour essayer d'ajuster la probabilité d'effondrement des économies occidentales. Et des BRICS d'ailleurs, d'effondrement général.
Bien sûr.
Et en fait, plus l'information se tempère, plus en fait votre IA va vous dire non, ça va un petit peu mieux et vous allez racheter un petit peu d'actions. Ou alors plus l'information que vous avez va vous dire attention, en fait le risque est en train de croître, plus vous allez revendre des actions. Eh bien cette IA, elle va juste faire mieux. Elle, à mon avis, elle existe déjà, mais je prends ça pour imager. Elle va juste faire la même chose, probablement en mieux, en plus rapidement, que ce que font des professionnels. Ils ne sont que dans l'estimation des probabilités en ce moment. Donc de dire que les institutionnels vont maintenant prendre le relais sûr, c'est revenir à la notion de mythe. C'est revenir à, on va avoir un sauveur, ou on a une explication. Non, à mon avis, il n'y en a pas ici. Il n'y en a
pas. Vous croyez qu'il y a une grande stratégie ? Il n'y a rien.
Non, c'est... Est-ce que la situation qu'on a va légèrement s'améliorer ?
Voilà.
Auquel cas, les intentions d'achat vont se manifester et une petite dynamique de reprise va se mettre en place. Et après, on a les mécaniques classiques de momentum. Ça remonte, donc je suis rassuré, donc je rachète, etc. etc. Ou est-ce que c'est l'inverse qui se met en place ? Voilà. Là où je vais rejoindre le point de départ, c'est quand on a une statistique qui montre que les investisseurs privés sont quand même extrêmement préoccupés, normalement, on n'a pas le début d'un grand crack. Je pense que ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Mais ce que je dis est valable pour un mois. N'est pas du tout valable pour 2026.
Ouais, non.
C'est juste que la situation actuelle nous permet de dire peut-être qu'en ce moment, on est dans la digestion de toute cette information qui vient de passer. Et après, comme je disais, en fonction de l'information, on va reprendre une trajectoire de reprise où on va glisser un petit peu plus, mais c'est tout ce qu'on peut dire à mon avis.
Vous avez vu là au début, il y a une quinzaine de jours, le porte-parole du Parlement iranien commençait à donner des conseils de trading aux boursiers de Wall Street en employant le dialecte des boursiers de Wall Street et en leur disant faut prendre les informations à l'envers. Et il avait juste à peu près à chaque fois. Enfin, c'était... Là, on est dans une période de surprise maximale et on ne sait même pas d'où va venir la surprise. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est... Alors, pour commenter ça de manière très, très simple, enfin pour moi, c'est le chaos permanent, informationnel et aussi émotionnel. Et ça correspond à l'état de destruction, c'est un sujet dont on a parlé sur la partie géopolitique, ça arrive à peu près tous les 110 ans. Ça prend en général 20 ans, ça a commencé probablement entre 2014 et 2016, probablement par là. Donc on est en plein dedans, on en a encore pour un moment. C'est la destruction du système mondial, tel qu'il était organisé préalablement. En fait, un système s'organise, il est efficace, et à un moment, il devient de moins en moins efficace, et donc il est critiqué. Et en fait, pour en créer un autre, on n'a pas trouvé dans l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis la Renaissance, on n'a pas trouvé d'autre solution que de tout détruire. Voilà. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de tout casser. Trump, c'est le meilleur exemple.
Oui,
il casse à peu près tout ce qui est devant lui. Enfin, c'est systématique chez lui.
Break it now, fix it later.
Exactement.
Mais le later... Là, va falloir
donc,
une échelle
donc, du
de
coup,
temps.
On se retrouve avec des porte-paroles de gouvernement qui disent vous devriez faire ceci, cela sur les marchés financiers, ce qui est complètement fou. Quoi.
Ça. Julien Debenzal, dit Toro, merci infiniment. On a pris un peu de recul justement sur toute cette incertitude et on a pu la quantifier. quand même y déceler quelques dynamiques super intéressantes. Merci infiniment et puis on se retrouve très bientôt pour l'œil du biais comportemental sur les marchés, toujours très 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 didactique.